Bonjour. Quand commence cette première paracha du livre de Devarim, nous sommes au premier jour du 11e mois de la 40e année de la sortie d'Égypte, 37 jours avant la mort de Moshe, le 7 Adar. Après 40 années passées dans le désert, les Bnei Israël sont enfin sur le point de pénétrer en Canaan. Moïse, âgé de 120 ans, sait qu'il n'y entrera pas. Et en guise de testament, il adresse à son peuple plusieurs discours qui récapitulent son enseignement. Cette répétition donne son autre nom à Devarim, le Mishneh Torah, et son nom grec, le Deutéronome, deuxième loi. Mais comment se fait-il que Moïse ait eu besoin de répéter son enseignement alors que la tradition nous enseigne que toutes les générations à venir étaient déjà présentes au pied du Sinaï, y compris la nôtre? Ce n'est pourtant pas la seule répétition de la Torah. Après la conquête, Josué, d'ailleurs sur ordre de Moïse, va l'écrire sur les pierres de l'autel, sur le mont Ébal. Josué 8, 32. Cette copie a clairement pour vocation la transmission de l'enseignement, tout comme celle ordonnée par Moïse au futur roi qui, lors de son accession au trône, devra l'écrire dans un livre, « Verhatavlo et Mishneh HaTorah Azot al Sefer » Deutéronome 17, 18, et vous entendez l'expression « Mishneh Torah ». Cette mitzvah fait justement partie de celle qu'apporte le Deutéronome, avec celle pour le roi de lire en public le Sefer Torah lors de la Shemitah, ou encore les lois du divorce et du Yiboum, le Lévirat. Car il ne s'agit pas ici d'une copie conforme. Selon Nachmanide, ces nouvelles lois n'avaient pas été énoncées jusqu'ici, car elles ne devaient prendre effet qu'après l'entrée sur la terre. Certaines mitzvot mentionnées auparavant manquent dans le Deutéronome, notamment celles relatives au sacrifice et à la pureté. D'autres lois ont déjà été promulguées, mais sont répétées, soit à effet de mise en garde, asrara, soit pour en compléter l'explication, l'Eosif Biur, en particulier en matière d'idolâtrie. L'accent est mis sur le social et la morale, aux dépens du rituel. Le caractère tout à fait spécifique du livre du Deutéronome apparaît dès son premier chapitre, et nous verrons qu'il peut être considéré comme le premier moment de la tradition orale. Ce livre rompt avec les précédents au point que dans le Talmud, la question se pose de son auteur, Dieu ou Moïse? Au contraire de l'Exode, du Lévitique et des Nombres, le Deutéronome ne commence pas par la lettre Vav, qui indiquerait un lien de consécution avec ce qui précède. Deutéronome 1.1 « El eha devarim asher diber Moshe el kol Israël be'ever hayarden » Ce sont les paroles qu'adressa Moïse à tout Israël, en deçà du Jourdain. Et vous entendez que nous n'avons pas non plus la formule récurrente « Vaidaber Adonai el Moshe lemor » L'Éternel parla à Moïse pour dire. De plus, après les versets d'introduction, Moïse parle à la première personne. Il semble donc s'exprimer en son nom propre, au lieu de « régurgiter » entre guillemets, les paroles placées dans sa gorge par Dieu, comme le dit le Midrash. Il n'est plus seulement celui qui transmet les lois et rapporte les faits, mais il se pose en historien et en chef politique. Il reformule son enseignement à un moment bien précis et pour un nouvel auditoire. La génération à laquelle il s'adresse n'a pas traversé la mer Rouge, ni vécu l'événement du Sinaï. Tous ceux qui étaient âgés de 20 ans et plus au moment de l'épisode des explorateurs ont disparu. D'autre part, les Bnei Israël vont pénétrer sur la terre, ce qui posera de nouveaux problèmes. Ils ne seront plus nourris par la manne et leurs vêtements vont désormais s'user. Ils vont devoir mettre la main à la pâte et cultiver le sol. On pourrait les comparer à des adolescents sur le point de quitter la maison et qui ne pourront plus compter sur maman pour faire les courses, cuisiner et faire la lessive. En Deutéronome 1:5, nous lisons « Be'er ha'yarden be'eretz Moav, ho'il Moshe be'eret ha'Torah azot, les morts. » En deçà du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença d'expliquer cet enseignement en disant « La précision Be'er ha'yarden, de l'autre côté du Jourdain, situe ce discours par rapport à la terre sur laquelle Israël n'est pas encore entré, et met donc l'accent sur cet objectif qui fonde toute cette reformulation de l'enseignement. Rashi commente « Be'shivim lashon pirshalahem » c'est en 70 langues qu'il la leur expliqua. Au pied de la lettre, Moïse institue ainsi un précédent pour l'étude de la Torah dans les langues profanes. Mais ces 70 langues sont surtout symboliques. La tradition enseigne « Shivim panim la Torah ». La Torah a 70 visages. C'est donc sous toutes ses facettes, de toutes les manières différentes d'expliquer la même chose, que Moïse va la redire afin qu'elle soit entendable aujourd'hui et par chacun dans sa particularité. Le Midrash raconte que, avant de s'éteindre, Moïse appela Josué et lui dit « Demande-moi toutes les lois sur lesquelles tu as encore un doute, et je te répondrai avant de quitter ce monde. » Josué lui répondit « Je ne t'ai pas quitté un instant de ton vivant. » Mais à la mort de Moshe, 300 lois ont été oubliées, et il y eut 700 doutes sur des interprétations. Ce Midrash nous rend Moïse terriblement humain, angoissé à l'idée qu'après sa mort, se perde son enseignement, comme il le dira en Deutéronome 31:29, « Car je sais qu'après ma mort, vous irez dégénérant et que vous dévirez du chemin que je vous ai prescrit. » Nous sommes oublieux, et l'enseignement se fait par la répétition et la redécouverte, tout autant que par la paraphrase et par l'interprétation. Déjà, l'Exode prévoyait que la génération d'après la sortie d'Égypte ne comprendrait plus Pessah et donnait la mitzvah de l'expliquer. Exode 13, 8. Manitou souligne que l'on ne peut pas s'adresser au Fils comme on s'est adressé au Père. Et c'est pourquoi Moïse réexplique la Torah, doit expliquer au Fils la Torah des Pères. Et il le fait « Be'ever ha'yarden, be'eretz Moav » de l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, c'est-à-dire exactement à l'endroit où s'est arrêtée la révélation de la Torah en nombre 36-13. Cependant, la reformulation humaine de la parole divine ne va pas sans poser problème. En effet, il est écrit en Deutéronome 4:2 « Lo tosifu el hadavar asher anochi metzaveh etchem, velo tigreu mimenu. » N'ajoutez rien à ce que je vous prescris et n'en retranchez rien. Comment alors est-il possible d'adapter, d'interpréter la Torah et de l'expliquer? Les sages ont tenté de contourner la difficulté. Rashi, d'après Megillot 31b, explique que Moïse a récité le Deutéronome en étant entièrement investi de la Shekhina. Et Maïmonide écrit « Quelqu'un qui prétendrait que même une seule parole de la Torah ait pu être prononcée par Moïse de son propre chef est un hérétique. » Au contraire, Nachmanide enseigne que c'est de lui-même qu'il décida d'agir ainsi, ce n'est pas l'Éternel qui le lui avait ordonné. Mais de toute façon, l'ensemble des lois lui avait été divulgué au Sinaï. Et selon Abravanel, Moïse a parlé à Israël de son propre chef, puis a mis son enseignement par écrit sur ordre de l'Éternel. Le dilemme est résolu par le principe talmudique selon lequel toute la tradition orale, Torah Shebe'al Peh, a été révélée à Moïse en même temps que la Torah écrite, Torah Shebirtav. Moïse inaugure ainsi la tradition orale, comme il est dit dans la première Mishnah des Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinai. Moïse a reçu la Torah du Sinaï, au Sinaï, il l'a donnée à Josué, Josué aux anciens, les anciens aux prophètes, et les prophètes l'ont transmis aux hommes de la grande assemblée. La Torah donne elle-même le fondement de la possibilité de l'exégèse en Deutéronome 30, 12, « Lo bashamayim hi »« Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira quérir ?» Ce sur quoi ironise le traité Eruvin 55a en disant « Car si elle était au ciel, tu devrais y grimper pour l'étudier. » Et le verset 14 conclut « Non, la chose est tout près de toi, tu l'as dans la bouche et dans le cœur pour la faire. » Les interprétations du Talmud paraîtront souvent très éloignées de la Torah écrite, comme l'illustre cette Agada tirée de Menachot 29b, dans laquelle Moïse ne reconnaît pas son propre enseignement. Il monte au ciel pour chercher les tables de la loi et trouve Dieu occupé à dessiner des couronnes sur les lettres. Il lui demande pourquoi il a besoin d'ajouter ces fioritures et Dieu lui répond que dans bien des générations viendra un homme appelé Akiva ben Yosef qui construira des montagnes de halachot à partir de ces points sur les lettres. Alors Moïse est sidéré que la loi puisse ainsi être modifiée par quelqu'un qui ne soit ni prophète ni saint, et il demande à voir cet homme. Dieu lui en donne « Retourne-toi ». Moïse se retrouve dans la classe de Rabbi Akiva et va s'asseoir humblement au dernier rang pour écouter. Il n'y comprend rien. À un moment, un élève demande à Rabbi Akiva « Rabbi, d'où te vient cette décision ?» Et le maître répond « Alaha le Moshe Misinai ». C'est une règle reçue de Moïse au Sinaï. Alors, Moïse est rassuré. Un autre récit très connu, tiré de Baba Metzia 59b, va encore plus loin sur la liberté d'interprétation. Rabbi Eliezer argumente contre la majorité des rabbins pour démontrer qu'un four construit en tuiles découpées et liées avec du sable n'est pas soumis aux lois de pureté. Il s'écrit « Si j'ai raison, que ce caroubier le prouve !» Et le caroubier du jardin de la maison d'études se déplace de 100 coudées. Certains disent même de 400 coudées. Mais les rabbins rétorquent « On n'apporte pas de preuve du caroubier. » Et Rabbi Eliezer insiste « Si j'ai raison, que ce canal le prouve !» Et le canal qui est près de la maison d'études retourne vers sa source. Mais les rabbins répondent « On n'apporte pas de preuve des cours d'eau. » Rabbi Eliezer continue « Si j'ai raison que les murs de la yeshiva le prouvent, et les murs s'inclinent, mais seulement à moitié, par respect pour Rabbi Yehoshua qui leur a lancé, si les sages discutent de la halakha, en quoi cela vous concerne-t-il » Mais ils ne se redressèrent pas non plus par égard pour Rabbi Eliezer. Alors celui-ci prend les grands moyens et fait directement appel à la voix divine, la bat kol. Si j'ai raison, que le ciel le confirme. Aussitôt, une voix céleste se fait entendre. Qu'avez-vous à vous en prendre à Rabbi Eliezer, dont le jugement prévoit en tout dans la halakha? Alors Rabbi Yehoshua oppose à Dieu le verset Lo bashamayim hi, elle n'est pas dans le ciel. Plus tard, Rabbi Nathan rencontre le prophète Élie et lui demande comment Dieu a réagi au propos de Rabbi Yeshua. Et le prophète Élie lui répond « Le Saint béni soit-il a ri en disant « Nitzruni banaï, Nitzruni banaï, mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. » Il ne s'agit pas pour autant d'interpréter la Torah n'importe comment, en revendiquant ou en imposant chacun sa vérité. Manitou rappelle que le Talmud distingue bien entre le chinouï, le changement qui fait devenir autre et qui est interdit, et le chidouche, le renouvellement, comme la lune se renouvelle au début de chaque mois, qui garde le lien à la tradition et au principe d'interprétation. Maïmonide, dans l'introduction à son Mishneh Torah, établit une chaîne de 40 générations de personnes nommément désignées qui ont transmis oralement la Torah d'individu à individu depuis Moïse. Et Moïse l'a reçue de Dieu, par conséquent, tous parlent au nom du Dieu vivant. D'ailleurs, tout sage est appelé disciple d'un autre sage, Talmid Chacham, et l'étude ne doit pas se pratiquer seule. Ainsi, les fils d'argent des commentaires pourront laisser entrevoir l'or du texte sacré, comme il est dit en Proverbe 25:11, « Tapuhe zahav maskiot kasef, davar davur alofnav » des pommes d'or dans des vases d'argent ajourés, telle une parole prononcée à propos. Nous sommes tous également chargés de transmettre cet enseignement, comme Moïse nous y invite en Deutéronome 1:12, comment donc porterai-je seul votre labeur ? Dans la paracha des Varim, la reprise des livres antérieurs commence par une longue et sévère admonestation. Le Midrash Aderet Eliyahu observe que s'il est précisé Elehad Devarim, c'est pour t'enseigner qu'il s'agit de divrei Tochecha. Comme chaque fois que ce mot est utilisé par Amos, David ou Kohelet. Moïse retrace les étapes des pérégrinations des Hébreux dans le désert et Rashi nous explique que chaque nom de localité cache un blâme en faisant allusion aux récriminations des Hébreux. J'en donnerai un seul exemple. Au premier verset, d'après Berachot 32a, le nom d'Izahav signifierait d'Izahav, trop d'or, allusion à la faute du veau d'or. Mais pourquoi tant de remontrances maintenant, alors que les auditeurs à qui s'adresse Moïse n'ont pas commis eux-mêmes toutes les fautes qu'il leur énumère? Mais justement, ils n'ont pas eu l'expérience personnelle de la traversée de la mer et du don de la Torah. Ces admonestations ont donc une double visée. À la fois prémunir les fils contre la réitération des errements de leur père et à la fois les fortifier avant les épreuves à venir quand ils entreront sur la terre. Il va falloir inscrire la Torah dans la réalité, pas seulement la comprendre intellectuellement. Et Josué va devoir faire la guerre sans perdre de vue la justice. Raphaël Drey souligne que l'enjeu est d'entrer en Canaan tout en restant des Bnei Israël, pour ne pas devenir des Bnei Canaan. Moïse les exhorte à se souvenir de qui ils sont, car ils vont avoir pour tâche de transformer Eretz Canaan, qui ne connaît pas les valeurs de la Torah. D'où la dimension sociale et éthique de ces discours. Lévinas, quant à lui, fait état de scrupules moraux des Hébreux à la suite des explorateurs. En effet, la justification de l'entrée sur la terre est d'ordre moral. C'est une terre qui dévore ses habitants quand ils ne sont pas justes. D'où l'urgence de leur rappeler les valeurs éthiques de la Torah. Le Midrash cite le verset des Proverbes 9-8 « N'adresse pas de reproches au sot, car il te haïra. Adresse des reproches au sage, il t'en aimera davantage. » Et Rabbi Akiva a dit « Heureuse la génération dont les hommes acceptent les admonestations. » Si l'on réprimande quelqu'un, c'est certes pour lui rappeler le mal qui a été fait, mais c'est surtout pour l'engager à modifier sa conduite afin que l'avenir ne soit pas emprisonné dans le passé. Tout l'enseignement du judaïsme repose sur la mémoire. Cette mise en narration, comme dans une psychanalyse mais au plan collectif, nous permet de prendre en main notre histoire et d'en devenir responsable. La paracha des Varim tombe toujours le Shabbat précédant immédiatement le jeûne de Tisha B'Av, le jour le plus triste du calendrier juif. Le traité Ta'anit 19a fait de ce jour la commémoration de tous les événements tragiques et il se chargera désormais du souvenir des massacres du 7 octobre. La tradition réunit en ce jour les anniversaires de la destruction des deux temples, Horban Bet Amikdash, celle du premier temple, le 7 Av, et celle du second, le 10. Le Talmud leur cherche des explications théologiques. Le traité Yoma 9b questionne « Pourquoi le premier temple a-t-il été détruit ? C'est parce que trois choses y prévalaient, l'idolâtrie, les unions interdites et le meurtre. Et le second temple a été détruit à cause d'une haine gratuite, sinatrinam. » Selon la Mishnah, quatre autres calamités se sont aussi produites le 9 Av. Moïse a brisé les tables. Alors selon Nachmanide, c'était plutôt le 17 Tammuz. On a cessé d'apporter les offrandes au temple. Une idole a été érigée dans le temple et le chef militaire romain Apostolus a brûlé un Sefer Torah juste avant la révolte de Bar Korba en 132. Curieuse coïncidence, la Première Guerre mondiale a été déclarée le 2 août, qui en 1914 tombait le 9 Av. Dans Ta'anit 19a, les rabbins reconstituent les dates des événements relatés dans le livre des Nombres et calcule que les pleurs du peuple suite au rapport négatif des explorateurs eurent lieu le 9 Av. Rabba dit au nom de Rabbi Yohanan, le Saint béni soit-il a dit, vous avez pleuré sans raison, aussi j'instituerai ce jour pour pleurer pour les générations à venir. Franck Alvarez Perrer et Aaron Eliashef, dans leur livre « L'idolâtrie ou la question de la part », analysent en quoi ces pleurs du peuple relevaient de l'idolâtrie. C'est qu'ils conduisaient à l'effacement du projet en le présentant comme irréalisable. Ils niaient ainsi le principe même qui avait rendu possible la sortie d'Égypte, le pouvoir divin de transformer radicalement la réalité. En Nombre 13-31, 10 des 12 explorateurs s'écrient à propos des habitants de Canaan, « Nous ne pouvons marcher contre ce peuple car il est plus fort que nous. »« Ki chazak hu mimenu. » Or, le mot « mimenu » que « nous » peut aussi bien signifier « que lui ». Et Rashi, d'après Sota 35a, interprète, ils l'ont dit contre le Très-Haut. Autrement dit, ses habitants sont plus forts que Dieu. Moïse revient longuement dans la paracha d'Evarim sur la faute des explorateurs et sur sa conséquence, l'entrée sur la terre repoussée de 38 ans. À l'office du soir de Tisha B'Av, elle eut le rouleau des lamentations attribué à Jérémie, Megillat Echa, ainsi que des keynotes, des élégies spéciales. Tisha B'Av marque l'aboutissement dramatique des 3 semaines de détresse, Ben Hametzarim, qui ont commencé au demi-jeûne du 17 Tammuz, jour de la première brèche dans le mur du Second Temple. Lors de ces 3 Shabbatot sont lus les Haftarot dites de pénitence, des textes très durs sur les péchés d'Israël. La Haftara qui accompagne notre paracha fait écho aux remontrances de Moïse. Elle est tirée du premier chapitre d'Isaïe, dont le premier mot, Hazon, donne son nom à ce Shabbat dit de la vision. La paracha, la Haftara et la Megillat Echa se répondent. Un midrash relève que 3 personnes, Moïse, Isaïe et Jérémie, ont utilisé le même mot « Echa », que l'on peut traduire par « quoi »,« comment » ou « hélas ». Rabbi Lévi a dit « Cela ressemble à une reine qui a eu 3 jeunes filles de compagnie. La première l'a vue dans sa splendeur, la deuxième l'a vue dans son étourdissement, allusion à la période de la destruction du temple et de la décadence. Et la troisième l'a vue dans sa laideur, quand sa majesté et sa gloire lui furent ôtées. Ainsi, Moïse a vu Israël dans son honneur et sa sérénité et a dit « Echa es alevadi tochechem umasachem verivechem » Deutéronome 1:12. « Comment donc porterai-je seul votre labeur, votre charge et vos combats ?» 6 siècles plus tard, Isaïe l'a vu dans sa perversité et a dit « Echa hayeta lezona kiria ne'emana » Isaïe 1:21. « Comment est-elle devenue une prostituée, la cité fidèle ?» Encore 2 siècles plus tard, Jérémie l'a vu dans son avilissement et a dit « Echa yashva vadad hayir rabatiam » Lamentation 1:1. « Comme elle est assise solitaire, la ville jadis si populeuse. » Comme les réprimandes de Moïse et d'Isaïe, le rappel des deuils vient nous mettre en garde contre tous les risques d'errement qui nous guettent. Mais le rabbin Jonathan Sacks souligne qu'il faut commémorer Tisha B'Av sans pour autant renoncer à l'espoir. Ainsi le chante notre hymne national à Tikva, Lo avda tikvatenu, notre espérance n'est pas perdue. Et le Shabbat Hazon sera suivi des 6 ou 7 haftarot de consolation. En effet, un précepte talmudique nous apprend que les promesses positives ne s'annulent jamais. Au contraire, les annonces de malheur peuvent être annulées par la Teshuvah si le peuple revient vers Dieu, comme l'a montré la mésaventure de Jonas à Ninive. La réussite du projet demeure conditionnelle, martèle Yeshayahu Leibovitz dans son recueil d'entretien intitulé en français « Les fêtes juives ». Je cite « Le droit à la consolation n'est pas accordé gratuitement, il doit être conquis. C'est au nom de ce principe que les sages de la tradition ont choisi cette haftara qui se termine par ce verset de consolation Isaïe 1:27 Tzion bemishpat tipade veshaveha betzdaka Sion sera racheté par la droiture et ceux qui reviennent par la justice. Ainsi, l'avenir reste toujours ouvert et dépend de nous. Et on relit l'avant-dernier verset des Lamentations après avoir lu le dernier, Lamentations 5:21. Hashivenu Adonai Elecha venashuva, Hadesh Yamenu Kekedem. Fais-nous revenir vers toi, Éternel, et nous reviendrons. Renouvelle nos jours comme autrefois. Et vous reconnaissez le verset qu'on chante à la fin de la rentrée du Sefer Torah. Et quand Zacharie, dans le passage dit du retour à Sion, en Zacharie 8:19, mentionne le jeûne de Tisha B'Av, c'est pour en faire espérer la disparition. Ainsi parle l'Éternel Tsevaot. Le jeûne du quatrième mois et le jeûne du cinquième mois, le jeûne du septième et le jeûne du dixième mois seront changés pour la maison de Juda en fête et en joie et en allégresse et en fête solennelle. Mais chérissez la vérité et la paix. Vehaemet, vehashalom, ehavu. Ces textes nous requièrent de toujours remettre à l'ouvrage notre auto-questionnement, comme nous y incite le rabbin Elimink en rapprochant les mots Echa et Ayeka, qui s'écrivent presque pareil, l'interpellation de Dieu après la faute en Genèse 3, 9. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Ayeka, où es-tu ?» Autrement dit, « Où en es-tu dans ton existence ? Qu'as-tu fait de ta vie ?» Shabbat shalom.